90.10, la clé des ondes, et sur la clé des ondes, comme tous les premiers lundis de chaque mois, à Chaïra, l'émission du Cercle Libertaire Jean Barruet. Aujourd'hui, c'est, comment dirais-je, une cuvée exceptionnelle, n'est-ce pas? Bah oui, parce qu'il y a pas mal de camarades qui sont en vadrouille, donc il n'y a que Thierry au micro et...
Fabienne, bonsoir.
Voilà, alors on a préparé tout un programme musical et les rubriques habituelles.
Voilà, comme vient de le dire Thierry, vous écoutez Achaïra, dont c'est la 219e émission. Cette émission sera donc effectivement présentée à deux voix et quatre mains, donc à la fois aux manettes et au micro, par Thierry et Fabienne. Vous pouvez nous appeler pendant l'émission au 05 56 50 69 99. Vous retrouverez les rubriques habituelles de l'émission, chronique de la désobéissance sur un texte d'André, l'éphéméride anarchiste et enfin l'agenda militant du mois de mars. Nous y ajouterons une revue de presse du mois de février qui a abordé des sujets d'actualité ou en lien avec nos préoccupations. Certains sujets feront d'ailleurs l'objet d'une rubrique spécifique. Mais comme à l'accoutumée, nous commençons par la chronique de la désobéissance, la chronique d'André. Elle portera sur la vasectomie ou stérilisation masculine. Donc, la chronique de la désobéissance. Une petite introduction avant la lecture de la chronique.
Les stérilisés de Bordeaux, des mutilés volontaires, c'était le 1er avril 1935. Le quotidien parisien Le Matin titrait en première page « Une extraordinaire affaire de stérilisation à Bordeaux ». Une quinzaine d'individus à tendance libertaire, sic, se sont soumis à une mutilation volontaire qui fut opérée par un médecin étranger d'origine autrichienne. Waouh ! Croit-on qui a pris la fuite ? Ah ! Trois stérilisés ont été arrêtés. D'autres arrestations sont imminentes. Quel était le but poursuivi par l'étrange praticien si dangereusement entreprenant ?
Donc, c'était donc un début d'article du quotidien parisien Le Matin à l'époque. Et maintenant, donc, la lecture de la chronique de notre ami André Bernard. Du temps de la vasectomie illégale. Quant à la saison des cerises, en 1963, Anita, ma compagne et moi avons décidé de profiter de la première occasion qui se présentait pour que je sois vasectomisée. C'était encore à l'époque une démarche parfaitement interdite en France, et ce pour cause d'automutilation ou de coups et blessures faits volontairement avec préméditation. Ce n'est que par la loi du 4 juillet 2001 que la chose est maintenant autorisée. Il convient de rappeler ici ce que nous avons cité là tout à l'heure, l'affaire des stérilisés de Bordeaux, quand en 1935, Aristide Lapeyre, André et André E. Prévotel et quelques autres, ainsi que le docteur Norbert Bartoszek, médecin d'origine autrichienne, qui procédait aux opérations de vasectomie, furent inquiétés par les autorités de justice. L'affaire fit grand bruit. Rappelons encore que le 19 juin 1973, Aristide Lapeyre fut condamné à 5 ans de prison pour un avortement suivi du décès accidentel d'une patiente. Cela, 2 ans seulement avant la promulgation de la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse. Quant à la vasectomie, ou stérilisation masculine, c'est une opération mineure qui consiste à couper d'un côté les canaux déférents porteurs des spermatozoïdes fabriqués par les testicules, de l'autre à ligaturer les canaux pour empêcher ainsi le passage de ces mêmes spermatozoïdes. Ce qui n'empêche nullement l'éjaculation. En effet, les spermatozoïdes, ne représentent en moyenne que 2 à 3% du liquide séminal. Si la production de spermatozoïdes par les testicules continue après la vasectomie, il se produit ensuite un équilibre entre les cellules élaborées et les cellules mourantes qui sont réabsorbées par l'organisme. L'occasion recherchée se présenta donc pour moi quand on apprit par un ami de Genève qu'il était possible de se faire opérer en Suisse. À 4, des jeunes libertaires, nous partîmes aussitôt que possible en voiture pour les bords du Bas-Clément. Rendez-vous avait été pris dans une clinique. Le chirurgien, très scrupuleusement, nous expliqua en quoi consistait l'opération, insistant lourdement sur son côté irréversible. Après s'être assuré individuellement lors d'un tête-à-tête de notre accord, il nous invita l'un après l'autre à passer dans la salle d'opération proche qui ressemblait à un cabinet de dentiste. Anesthésie locale légère, aucune douleur, ça durait moins d'un quart d'heure pour chacun. Je n'ai pas le souvenir de ce que cela a coûté, mais pour nos maigres budgets de l'époque, c'était, semble-t-il, supportable. Dans la foulée, pour nous détendre un peu, nous avions rendez-vous chez un copain. Dans son petit salon, alors que nous buvions un coup, l'anesthésie ne fit plus son effet avec un léger retard par rapport au premier à être passé sur la table d'opération. Nous étions alors seuls dans la pièce et pour calmer la douleur, qui n'était pourtant pas excessive, nous ne trouvâmes rien de mieux que de baisser nos pantalons et de nous ventiler le bas du ventre avec des journaux. Imaginez le spectacle. C'est à ce moment, évidemment, qu'une dame plus toute jeune, venue de je ne sais où, entra dans la pièce et poussa un « oh » grimaçant et s'enfuit prestement en claquant la porte. L'incident en resta là. Nous, illico, repartîmes en direction de la frontière. À un certain moment, l'envie de pisser se manifesta et du côté français, notre chauffeur arrêta la voiture dans un endroit relativement isolé. C'est alors que, pas loin d'un fossé, nos regards furent attirés par un cerisier chargé de magnifiques fruits rouges. Bien qu'un peu handicapé pour franchir aisément le ruisseau, nous avons quand même attrapé quelques cerises sur les branches basses et tout en les mangeant, nous sommes revenus à la voiture où deux gendarmes nous attendaient. Hé, c'est du vol, messieurs, fit l'un d'eux, vos papiers, s'il vous plaît. Nous ne pouvions qu'obtempérer. Leur auto, où ils se rendirent nos papiers à la main, était plus ou moins camouflée à une centaine de mètres de la nôtre et c'est de là qu'ils durent sans doute vérifier que nous n'étions ni des méchants gangsters, ni des contrebandiers recherchés. Au bout d'un moment, ils nous firent signe de venir récupérer nos cartes d'identité. Tout en marchant lentement, nous y allâmes les jambes légèrement et curieusement écartées, cela sous l'œil suspicieux des deux Pandores qui nous observaient interrogatifs, mais qui nous rendirent cependant nos papiers sans dire un mot. Retour à la voiture avec notre démarche prudente, et cela toujours sous le regard de la maréchaussée, qui semblait chercher à comprendre quelque chose. Aussitôt assis dans notre véhicule, l'un de nous dit au chauffeur « Roule, roule, ne traînons pas !» Après quelques jours, une amie vint pour enlever les fils qui restaient de l'opération. Rien n'y paraissait, les poils recommençaient à pousser. Anita et moi attendîmes encore prudemment quelques temps pour un premier contact amoureux sans risque d'enfant. Il y eut bien des essais, dans le vide, pour constater que tout fonctionnait comme à l'accoutumée. Oui, une fois de plus, il avait fallu en passer par l'illégalité pour conquérir une liberté plus grande, ce fut un succès. En 1971, parut le manifeste des 343 salopes. À leur exemple, quelqu'un émit l'idée de publier un manifeste des vasectomisés. Cela ne se fit pas. Voilà la chronique d'André que André a écrite en novembre 2019. Pour illustrer cette rubrique, quoi de mieux que d'écouter Henri Tachant dans « Je ne veux pas d'enfant ».
À mon arbre, à mon chêne, pas de gland, à mes joues, pas de barbe. Je ne veux pas d'enfant pour consoler ma mort. Pas de petit mutant, pas de petit médor. Je ne veux pas d'enfant qui sèche au tableau noir, à la guerre de 100 ans, au fond d'un réfectoire. Pas d'enfant au curé, au gradé, au grognasse. Pas d'enfant au piquet, au premier de la classe. Je ne veux pas d'enfant qui pleure ou qui babille, et dont on sera fier quand il fasse souffrir les filles. Je ne veux pas d'enfant pour réussir mes rêves, les rêves des parents qui s'étiolent et qui crèvent. Je ne veux pas d'enfant qu'on s'épingle en médaille, qu'on arbore clinquant bien avant la bataille. Je ne veux pas d'enfant pour la paix des ménages, petits témoins tremblants des couples en naufrage. Je ne veux pas d'enfant, je ne suis pas normal, j'ai déserté les rangs du troupeau génital. C'est comme si j'étais nègre, gauchiste ou non violent, enfin de cette pègre qui fait peur aux parents. Je ne veux pas d'enfant. J'ai le gueule à la face de ce monde des grands assassins et rapaces. Pas d'enfant pour vos guerres, vous les ferez sans lui. Dans le sein de sa mère, il objecte sa vie. Dans le sein de sa mère, il objecte sa vie.
C'est la clé des ondes. Et sur la clé des ondes, comme tous les lundis de chaque mois, Achaïra. Bon, et bien maintenant, nous allons vous infliger une revue de presse. Voilà.
Alors déjà, le numéro 11 de la revue Casserole, revue féministe libertaire que nous avons souvent évoquée au fil de nos émissions, est paru. Il présente entre autres, et cela tombe bien, un dossier documenté sur la contraception masculine, un lien donc avec la chronique de la désobéissance que nous venons d'écouter. Ce n'est pas le seul sujet abordé dans ce numéro, en voici donc le sommaire. Quelques titres du sommaire, retraite, les femmes vont trinquer, cancer du sang, épinard, un grenelle, épinard en deux mots hein, bien sûr, un grenelle scandaleux, machisme, patriarcat, tueur, femmes et musulmanes, xénophobie et racisme, Mantes-la-Jolie, justice et dignité, non au SNU, service national universitaire et universel, pardon, et nous en reparlerons tout à l'heure. Les Libanaises mènent le bal, crime d'honneur ou de déshonneur, Maroc, des bébés à la poubelle, Bolivie, non aux frontières. Donc c'est un extrait non exhaustif de, voilà, de ce numéro 11 de Casserole, mais vous pouvez, et je crois que nous l'avons déjà dit dans cette émission, vous pouvez vous abonner et ou consulter les anciens numéros sur le site Casserole. Toujours dans cette revue de presse, un clin d'œil à une de nos émissions précédentes, la numéro 215 de novembre 2019, Libération du 8 février 2020, se réfère à Murray Bookchin, que nous avons déjà évoqué. L'article, sous le titre « Municipalisme, place aux communes créatives », évoque le sujet du municipalisme libertaire en l'illustrant d'exemples et le complétant d'une bibliographie. Alors, nous n'allons pas, puisque nous avons consacré une émission à ce sujet, en reparler profondément, mais l'article que je viens de citer sera en ligne sur le site de notre émission. Le Monde Libertaire, ensuite, organe de la Fédération Anarchiste, dans son dernier numéro en ligne, a pour titre « Histoire de femmes, femmes d'histoire ». Donc nous sommes en mars, hein, vous savez, on en parlera aussi tout à l'heure, il va y avoir beaucoup d'événements qui vont se dérouler autour de la date du 8 mars. Donc voici lecture d'un extrait de l'édito du Monde Libertaire, écrit par Marina du groupe Libertad et de Libertad de l'AFA, pardon. Et la une du ML et l'édito seront en ligne sur notre site, mais la totalité du journal est accessible sur le site du Monde Libertaire. Et là, la préparation n'est pas parfaite, il faut que je cherche le papier. Le voilà, il n'était pas très loin. Donc, le titre. Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Histoire de femme, femme d'histoire. Peut-être vous attendez-vous à lire un article sur Louise Michel, Nathalie Lemel, Rosa Parks, Emma Goldman, Mé Picré, Angela Davis, Olem de Gouges ou autres. Mais non, nous avons préféré parler de toutes ces femmes anonymes qui luttent. Femmes qui inventent de nouvelles formes de combat. Chiliennes qui ridiculisent la loi anti-masque avec leurs cagoules bariolées et colorées, parisiennes qui médiatisent les cortèges en chorégraphiant la lutte, femmes qui se battent, kurdes des milices YPJ, yékinéennes parastina djinn, unité de défense de la femme, qui s'invente une nouvelle réalité, une nouvelle place comme le firent les mujeres libres espagnoles qui combattaient les franquismes au pays inventeur du machisme. Femmes qui lutte quotidiennement contre ce patriarcat de notre âge, si bien ancré dans nos sociétés, contre les violences faites aux femmes qui font toujours trop de victimes, pour l'égalité des salaires, toujours pas acquise, pour abattre tous ces symboles contre l'expression juridique pour qui louer une salle, un local en bon père de famille, je cite, cette appellation donc ne fut abandonnée qu'en août 2014, rendez-vous compte. Voilà, toujours dans cette revue de presse, le Canard Enchaîné, et nous l'en remercions, du 19 février dernier, annonce le décès de Michel Ragon, auteur libertaire. Nous y revenons dans un instant pour une rubrique dédiée. Mais avant d'aborder la rubrique sur Michel Ragon, puisque nous avons évoqué la presse qui n'a pas daigné parler de ce personnage à son décès, écoutons Fontéval, Coluche, une diatribe sur la presse bourgeoise.
C'est les Beatles.
Oui. Le train. Merci pour cet accueil chaleureux, hein, vraiment. Oui, merci beaucoup, hein, vraiment. Ah non, vraiment, merci. Alors, alors qu'on n'a encore rien fait du tout, hein, vraiment. Formidable.
Je me demande si c'est la peine de faire quelque chose.
Oui, oui.
On va
démarrer doucement parce que nous, on n'est jamais très forts sur les débuts de spectacle. On ne sait jamais trop quoi faire et... Pourtant, on est incité à le faire par votre accueil, mais là...
Mais c'est toujours timide pour commencer.
Enfin. Ben nous non plus, on ne veut pas grand-chose. Ah ça, c'est cher, il y en a de moins en moins, hein, c'est pour ça.
Hein, c'est un produit...
Alors, on va commencer par parler de ce qu'on... Enfin, il y a plusieurs sujets qu'on n'a pas eu le temps de traiter, d'actualité. Alors, on n'a rien à dire dessus, parce que c'est pas intéressant. Tout le monde en parle, mais on ne trouvait pas que c'était intéressant. Alors, on a décidé de ne pas en parler, on a décidé de ne pas traiter certains sujets dont on va vous parler maintenant. Déjà, on ne va pas parler du président Reagan.
C'est pas la peine. On en a ras-le-bol.
Espèce
de totem, on a envie de tourner autour en faisant...
Le symbole de la réussite...
Alors, quand je vois ça, je me prends pour un Apache. Je comprends les Indiens, mais là, vivement qu'ils reviennent. Pour chasser ce truc, c'est pas possible.
Quand même.
C'est pas possible.
Quand même, il a une santé extraordinaire.
Alors, je me demande si c'est de la santé, moi, je sais pas.
Tous les 6 mois, on en retire un bout.
Oui, oui. Et il continue.
Et il en ressort grandi. C'est merveilleux.
Sa devise, c'est opérez-moi, il en restera toujours quelque chose. C'est incroyable.
Reagan, hein, formidable cet homme. Alors on le voit, à chaque fois qu'il est opéré, on le voit, il est là souriant, au milieu des drains, il roule une pelle à Nancy.
Extraordinaire.
Formidable, Reagan. Oui. Un moral d'acier, c'est un gagnant.
Ah bah oui, d'ailleurs, il n'y a plus que de l'acier, je veux dire. Hein.
C'est un battant.
C'est un battant.
Ah, il a des petits ennuis en ce moment quand même.
Ah,
hein.
C'est la merde, c'est la merde. Ouh, il y a des couilles, là, il y a des couilles. C'est ce qu'il dit, il le dit en anglais, on comprend pas, nous. Mais chaque fois que vous le voyez à la télé, c'est ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'ils mettent pas les sous-titres, parce qu'il y a des couilles, il y a des couilles.
Vraiment... Il a voulu vendre des moulins à café à l'Iran, puis s'est gouré de paquets.
Et voilà. C'est vrai.
Non mais...
Comment ça s'est passé cette histoire de vente d'armes là? Parce que c'est quand même obscur.
Il s'est expliqué. S'est expliqué très clairement. En fait, ils voulaient envoyer des bombes sur l'Iran.
Oui.
Et ils n'ont pas enlevé l'emballage. Ils ont livré des bombes à l'Iran.
Et au lieu de renvoyer le chèque, ils l'ont livré. C'est
les Iraniens, oui, c'est ça.
Ça.
Ah, c'est. De quoi? C'est pas nous que ça pourrait arriver, nous, les Français.
Parce qu'une
bonne fois pour. Ah oui. Une bonne fois pour toutes.
On n'est pas des cons.
Une bonne fois pour toutes, le gouvernement français a décidé de ne plus fournir en armes les pays soupçonnés de soutenir le terrorisme.
Voilà.
Maintenant, on leur donne l'argent.
Ils achètent ce qu'ils veulent.
Ils achètent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire des armes.
Voilà. Vous tentez le banco?
Oui. L'Iran, l'Irak, on fournit un peu aux deux, mais enfin bon.
Oui, bah, c'est toujours des produits français, des produits de qualité, français, qualité.
Très bonne
France.
Qualité.
Ah, oui, qualité, qualité France. France. On peut imaginer le champ de bataille Irak-Iran d'ailleurs. Tu fais l'iranien?
Oui, je fais l'iranien.
Je l'ai fait hier soir, sinon on va s'y habituer.
Sinon on se fait chier. Mais...
Alors, t'es dans ta tranchée, je suis dans ma tranchée.
Ça,
voilà, c'est très bien. Hé, oh, hé, hé, c'est quoi? Hé, oh, hé, c'est quoi ta mitraillette?
Moi, c'est Manu France.
C'est Manu France, moi aussi c'est Manu France. Dis-donc, elle est en panne, elle est enrayée là. Je sais pas, c'est de la merde ça. Tu peux pas me dire comment je
attends, fais gaffe au barbelé de pas te piquer le doigt. Non, petite molette là qui déconne.
Ah, c'est la molette. Bah oui, alors on nous a pas livré de molette.
Ah, bah c'est la même, hein.
Ça, c'est la même, d'accord, merci.
C'est la façon française de lutter contre la démographie galopante dans le tiers-monde.
Et contrairement à ce qui se passe chez nous.
Contrairement à ce qui se passe chez nous, parce qu'il n'y a plus assez de Français.
Il n'y a plus assez de Français.
Et Jean-Marie Le Pen l'a dit.
Oui.
Il
donc
l'a
c'est
dit.
Vrai.
Et donc c'est vrai, vous savez. Jean-Marie Le Pen.
Qu'est-ce qu'il attend pour en fabriquer? Ce qu'il y a, c'est qu'il ne trouve pas de partenaire. Même en payant.
Oui, sa femme l'a refusé.
Bah, sa femme a foutu le camp il y a deux ans. Oui. Elle a déjà donné. Ouais.
Jean-Marie Le Pen qui a fait pression sur le gouvernement français, qui a accepté la pression. Qui a accepté la pression avec. Il s'est fait coincer contre un mur et dire encore plus fort.
Ouais.
Et. Pour ne plus que l'IVG soit remboursé.
Ah oui, oui.
C'est un truc terrible, quand même, ça. Hein,
c'est une histoire d'avortement, ça.
Oui, c'est une histoire d'avortement. Oui.
Enfin,
ça sera plus remboursé.
Faut pas dramatiser, faut être objectif, quand même. Ça ne s'adresse qu'aux femmes.
Ah oui, c'est vrai.
Bon, alors...
Non, mais en ce qui concerne les problèmes de natalité, Jean-Marie Le Pen est calé.
Ah bah, oui, à sa naissance, on a jeté le bébé, on a gardé le placenta, alors tu vois...
De quoi on va pas parler encore?
De quoi ne parlerait-on pas?
Bon, on va pas parler de Bokassa.
Ah non, 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 c'est un ami de la France.
Non, non, c'est un ami de la France. Tout se passe comme si on voulait qu'il ferme sa gueule. Alors il va être condamné, mais il va être gracié, on le sait déjà avant qu'il soit jugé.
Il va être gracié à perpétuité.
Mais pourquoi va-t-il être gracié? C'est parce qu'il a de très bons avocats.
Et ce sont les avocats.
C'est les avocats du Front National.
Ah bah oui, d'accord.
Tous les gens qui défendent Bokassa sont du Front National, vous savez ça.
Hein, oui, bah oui.
D'ailleurs, c'est le seul noir que le Front National cherche à blanchir, vous savez. Et puis alors. Puis alors, on va pas parler de pollution.
Non, mais monsieur, la pollution, mais c'est complètement dépassé. C'est ringard, la pollution.
Les usines sans dose.
Mais on va laisser les usines sans dose. Le Rhin, en cas de pollution, le Rhin ne coule pas en France.
Mais
enfin,
non.
Il coule chez les Boches.
Du côté français, il n'y avait pas un seul poisson qui avait le ventre en l'air.
Mais non, il n'y avait pas de poisson du tout.
Mais non, il n'y avait pas. Il y a tellement de chômeurs qui pêchent à la ligne de l'autre côté qu'il n'y a plus de poisson depuis longtemps.
Mais non, c'est les chômeurs qui ont le ventre en l'air. Allons donc.
Bien sûr.
Voilà. Et d'ailleurs, chaque fois qu'il y a une catastrophe écologique qui se produit en Europe, qu'est-ce qu'ils disent, les journalistes?
Ils disent, les experts sont formels.
Les experts sont formels. Vous pouvez être tranquille, les experts sont formels.
Alors vous allez nous poser la question, qu'est-ce qu'un expert?
C'est un mec...
qui est formel.
Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu feras plus tard?
Je serai formel.
Je serai formel, ouais. Voilà.
C'est les mecs qui font des études pour être formels.
Pour être formels, ils sont formels. Donc il n'y a rien à craindre. C'est comme Tchernobyl.
À Tchernobyl. Encore un truc dont... Encore un truc dont on ne va pas parler,
mais
Tchernobyl.
Non, mais...
93% des Français sont inquiets parce qu'ils jugent qu'ils sont mal informés sur les retombées, sur l'histoire d'explosion. On ne dit pas explosion.
Je me mêle, on dit excursion d'ailleurs, excursion. C'est plus joli. Hein.
Excursion.
C'est un côté voyage organisé,
oui.
Club Méditerranée.
On bronze plus vite, c'est la même chose, mais on bronze plus vite.
Et on pèle tout de suite, voilà.
D'ailleurs, Alain Madelin. Hein, Alain Madelin, c'est pas un con, Alain Madelin.
Ah, attention.
Il a dit, les experts sont formels.
Il est précis.
Il sait ce qu'il dit, Alain Madelin.
Oui, c'est un ancien d'ordre nouveau,
oui.
Il est précis. Hein, il est
donc il sait où il range ses affaires.
Oui. Il a des arguments frappants.
Et il a dit quoi? Il a dit, un Tchernobyl français est impossible.
Mais bien sûr, regardez une carte de France et cherchez donc.
Il n'y a pas de Tchernobyl en France.
Il a raison.
Il n'y a pas de Tchernobyl en France. Alors, et ça c'est l'argument philosophique, nous sommes français, donc ça ne peut pas nous arriver.
C'est philosophique, c'est un peu profond, mais enfin bon.
Mais il y a un argument scientifique.
Ah, allons-y, la science, oui, ça va.
Alors, à 13h, au journal de TF1, il y a un expert qui est formel.
Marie-Laure Aucollet. Mmh.
Michel Chevalet. Michel Chevalet qui sait tout sur tout, la fécondation in vitro.
C'est extraordinaire.
Le renouvellement des papiers peints dans les ministères,
l'écoulement de l'eau chaude dans les bidets,
il sait tout sur tout.
Surtout, oui.
Alors, en ce qui concerne le nucléaire, il a expliqué aux Français, pour qu'ils soient rassurés, il leur a dit une centrale nucléaire, c'est très simple, on craint rien. Parce que c'est fait avec un machin comme ça.
Suivez-la.
Alors, il y a des bétons avec du métal comme ça, puis il y a des trous dedans. Et alors, on fait des trous. Alors, pour pas que ça fuit par les trous, on met des boulons. Vous savez, des gros boulons. C'est vrai, on met des boulons. Mais nous, en France, pour être sûr que ça fuit pas entre la paroi et le boulon, on met une rondelle.
Ouais, une rondelle.
Et les communistes, ils n'ont pas de rondelles.
Ils n'ont pas de rondelles.
Ils font de la vodka
Tandis
avec.
Nous, la France est le pays de la rondelle.
Le pays de la rondelle.
C'est le pays de la rondelle. Le pape le savait si bien qu'il est venu distribuer des hosties à Lyon aux bonnes sœurs moustachues. Hein ? C'était des rondelles. C'était des rondelles. Les rondelles cochonnoues avec la peau, tu vois ? Oui.
Ah bon ?
Hosties avec la peau. Ben oui, parce que c'est là qu'il y a toutes les vitamines.
Enfin, c'était des hosties. Ah, oui, mais je savais pas que c'était cette partie-là du corps du Christ qu'on mangeait.
Mais,
moi,
mais si. Il faut bien que ça serve à quelque chose, parce que pauvre pépère, hein, je veux dire.
De quoi on va pas parler encore ? Des communistes. Parce qu'il y en a.
Non,
attention. Il y en a parmi vous qui viennent exprès parce qu'ils savent qu'on fait de l'anticommunisme primaire.
Qui viennent de loin.
Depuis longtemps, depuis 15 ans, on a gagné beaucoup d'argent en faisant ça, nous.
On est les seuls Français que le PC est enrichi, nous.
À part Doumingue.
À part demain, oui.
Patrick et moi, on en a discuté avant de faire ce spectacle.
On a dit non.
Cette année, on ne fait pas d'anticommunisme primaire parce qu'on ne veut pas s'attaquer à des gens qui sont moins nombreux que nous.
Voilà. D'ailleurs, oui, à nous deux, on pourrait les cerner.
Oui. Hein.
D'ailleurs, vous savez qu'on ne dit plus le quart du Parti communiste. Hein. On dit le side quart du Parti communiste. Ça sonne en mec deux dedans, c'est pour ça. Les tristes cires du Figaro n'ont pas éclaté en sanglots le jour où Coluche est parti. Ils n'ont pas suivi l'enterrement, n'ont pas écrit à sa maman, et c'est à peine s'ils ont écrit quelques colonnes pour informer de l'accident inespéré qui les a fait bondir de joie. Et pour les faire un peu plus rire, il s'est dit, tiens, je vais mourir. Ah, quel succès, ah, quel tabac. Quel torrent de haine, ma sœur, ce type était un pourrisseur, vous entendez. C'est ainsi que le Figaro a qualifié le zigoto, qui a pas fini de nous faire marrer. Un pourrisseur, c'est étonnant, un pourrisseur, c'est émouvant de trouver ça dans une gazette qui, au chapitre de l'ennui, dans l'art de la dégueulasserie, n'a pas encore trouvé son maître. Organe de la haine raciale, décidément ce beau journal a les glandes bien accrochées. Pour donner des leçons d'humour, quand on n'a que Jacques Faisant pour faire sourire finement les banquiers. Pour donner des cours de pudeur en mettant sous l'œil du lecteur des articles si passionnants que les services promotionnels le distribuent dans les hôtels où il est vendu gratuitement. Et puis Coluche était vulgaire, peut-on lire sous la plume amère d'un éditorialiste haineux ? C'est vrai qu'il causait du sexe, fatalement ça fout des complexes aux eunuques du beau milieu. Quand on voit la gueule à Hersan et à Louis Powell, on comprend que le cul leur fout un malaise. Eux dont la devise un peu crue est « Depuis que je ne baise plus, je voudrais que personne ne baise ». On dit qu'un journal est con, on le compare à un torchon. Or un torchon, si je ne me gourre, ça sert à nettoyer la crasse, alors que le Figaro ramasse un peu plus de merde chaque jour. Pardonnez-moi d'être direct, mais face à ce journal infect, j'ai presque envie d'être ordurier, afin qu'il me foute à l'index, vu que sous l'ongle de l'index il y a le sang des immigrés. J'avoue que mes couplets revanchards ont un esprit 68 art, mais chacun sa guerre, c'est la vie. Attardé de mes 68, attardé de 14-18, on a chacun ses nostalgies. Les tristes cires du Figaro, à la mort de Marcel Dassault, ont fait de grands signes de croix. Dassault vendait des bombardiers, Coluche distribuait à bouffer, le Figaro a fait son choix.
La clé des ondes, et sur la clé des ondes, à Chaïra, l'émission du Cercle Libertaire Jean Barué sur la clé des ondes, voilà. Alors, les auditrices et les auditeurs attentifs et attentives ont pu remarquer que on en a mis une louche en plus sans rendre compte, parce qu'on a mal lu la pochette du vinyle et on n'avait pas vu qu'avant la chanson sur Coluche, bah, y avait un long monologue en duo de Fond et Val à la grande époque. On va dire ça comme ça pour ne pas faire de commentaires. Voilà. Bon, et ben, on va recommencer par la lecture de l'article signé Jean-Luc Porquet dans le Canard enchaîné du 19 février. On l'a évoqué dans la revue de presse, il a eu le mérite d'être le seul à avoir évoqué la disparition de Michel Ragon, né le 24 juin 1924 à Marseille et mort le 14 février 2020. Il était écrivain, critique d'art, critique littéraire français. Et bon, bah, je vais vous lire le moins mal possible cet article. Salut Michel Ragon, quelle vie, belle et bien remplie, fière, libre que la sienne. Michel Ragon, qui vient de disparaître à l'âge de 95 ans, a été saute-ruisseau, résistant, bouquiniste, prof d'architecture, spécialiste de la littérature prolétarienne, critique d'art, d'avant-garde, romancier populaire et, bon, anarchiste, n'en débordant pas, ami et découvreur de peintres, et on en oublie. Il passe son enfance à Fontenay-le-Comte, en Vendée. Sa mère est lingère. Il a d'ailleurs écrit un bouquin sur l'accent de sa mère. Ah. Il n'a que 8 ans lorsque il découvre son père et alcoolique et ancien d'Indochine. Oh. À 14 ans, il se retrouve sur le marché du travail à Nantes. Le voilà garçon de course, surtout grand dévoreur de livres. Débarqué à Paris en 43, le petit Prolo vit dans une joyeuse dèche. Jeune chien, fou, sans collier, hirsute, mal peigné, pas peigné du tout, aboyant à tort et à travers, il fait le miracle, la rencontre d'aujourd'hui, oubliée de Henri Poulaille, ardent défenseur chez Grasset, de la littérature dite prolétarienne, en qui il verra un espèce de père d'adoption. Lui, l'autodidacte, se passionne à son tour pour les livres écrits par les gens de peu, artisans, paysans, ouvriers. Il y consacre plusieurs ouvrages et jamais n'en démordra. Si la voix du peuple apparaît authentique, nue, elle scandalise, et oui.
Alors, on ne vous cache rien, Thierry a oublié ses lunettes. Donc, difficile, là, la lecture de l'article du Canard. Donc, je prends le relais. Par l'intermédiaire de la narre Poulaille, le voilà bientôt compagnon de route de tout ce que Paris compte d'anarchistes. Louis Lecoing, Robert Giraud, René Deobadia, Armand Robin, Daniel Guérin, Maurice Joyeux, etc. seront de ses amis. La voie libertaire, écrit-il, n'est pas confortable. Elle est puisque minoritaire, la voie de la solitude et du doute. Pourquoi, dès mes 20 ans, ai-je emprunté celle-là et non pas l'autre ? Pourquoi ne me serais-je jamais détourné de ce chemin ? Pourquoi, après un aussi long parcours, ai-je acquis la certitude que cette voie était la seule qui vaille la peine d'être fréquentée ? Il répondra à ces questions dans un livre magnifique, publié en 1991, juste après la parution de « La mémoire des vaincus », une vaste fresque historique sur le mouvement anarchiste qui éveilla de nombreuses vocations. Auparavant, il avait écrit d'autres grands romans populaires, dont le fameux « Mouchoir rouge de Cholet ». Mais Ragon nourrit une autre passion, la peinture, à laquelle l'a initié lors de ses années nantaises son ami Jacques Guité. qu'il tombe sur un soulage et voilà qu'il dit connaître l'un des plus grands chocs de sa vie rétinienne. Toute sa vie, il navigue d'une berge à l'autre, de la sphère libertaire et prolétarienne aux ateliers des peintres abstraits. Devenu critique d'art, il lance le mouvement Cobra et cultive l'amitié des peintres Hans Hartung, Gaston Chessac, Dubuffet, Atlan, Azarjorn, Soulages, etc. Puis il se passionne pour l'architecture. Quand il dédicaçait un livre, Michel Ragon aimait conclure par ce simple envoi « Cordial salut ».
Voilà, alors, que dire de plus ? Michel Ragon a écrit pas mal de bouquins, et entre autres, je l'ai sous les yeux, parce qu'on parle toujours des têtes de gondole, mais moi, ce que j'aime bien, c'est l'architecture des gares, parce qu'il a écrit tout un bouquin sur les gares françaises et leur architecture. Ah ! Alors, à l'heure où il y en a des qui voudraient mettre à la place de certaines gares parisiennes des espaces verts, ça laisse pas mal de choses. Bon, nous allons maintenant un petit coup d'œil sur Michel Ragon, la voie libertaire aussi, c'était avec tout plein de photos inédite quand il était bouquiniste et tout, même à Radio Libertaire dans les années 80. Voilà. Bon, ben là, on va vous faire écouter un titre de Louis Arti sur pas des gares, mais les chemins de fer. Ben voilà.
En fait, c'est un voyage en train, mais avec pour but la gare de Metz. D'où le lien avec l'architecture des gares, ouvrage de Michel Ragon.
Entre Forbach, Styrin, Béren, là-bas au bout de la Lorraine, tout contre les reins de l'Allemagne, au lac du Schlamm, roupille mon âme. Si ma fenêtre c'est une galerie, c'est que le soleil brille plus d'en haut. Si les coqueries coulent le ciel gris, c'est que la fumée, c'est un bateau. Entre les portes de ma gueule et mes dents noires trouées de cris, entre ceux qui veulent que je la ferme et entre l'amour qui bosse au puits. Je tiens debout comme un voyage au droit. Je tiens debout comme, je tiens debout comme un voyage au droit. Toi aussi Lorraine. Tu tiens debout comme un voyage droit. Tu tiens debout comme un voyage droit. Tu tiens. Tu tiens. Entre les papillons de la Rosselle qui tendent l'air comme des bras, entre la bière qui mousse des ailes dans la bouche des hommes de là-bas. Et quand j'entends voler la vie, j'ai une rue qui me tape sur le dos. C'est une femme qui s'appelle Marie, qui plante des fous dans son bistrot. Entre le rire des enfants qui bétonnent les jukebox à poil, entre mon accent presque allemand, que les Français comprennent toujours mieux. Je tiens debout comme un voyage droit. Je tiens debout comme, je tiens debout comme un voyage droit. Toi aussi. Toi aussi Lorraine. Toi aussi, yeah. wie eine Reise Lothringen. Sors de ton puits, Lorraine. Parle tes langues, Lorraine, parle tes langues. نقولك اسمح الريح نقولك اسمح نقولك اسمح الريح نقولك اسمح نقولك اسمح الريح نقولك اسمح parle tes langues, Lorraine. Hey, ciao Angelo, come vai oggi, va bene? Che mine vai? Sono stato a lavorare, adesso sono stanco, a faticare sono. E ti meno male, come vai Angelo? Che brutta vita che c'è, che brutta vita che c'è. E te meno male, come vai? Tu stais, tu tiens debout comme un voyage au droit. Tu tiens debout comme un voyage au droit. Tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens. Tu stais. Entre Forbach, Styrin, Beren, là-bas au bout de la Lorraine, tout contre les reins de l'Allemagne, au lac du Schlamm, chante mon âme. Si j'ai une voix comme une galerie, c'est que mes paroles passent toujours là, et mes chansons jamais Paris, car Metz sur Seine, je ne connais pas. Entre les portes de nos gueules et nos dents noires trouées de cris, entre ceux qui veulent qu'on la ferme et entre l'amour qui sort du puits. Hey, on tient debout comme, on tient debout comme un voyage au droit. On tient debout comme, on tient debout comme un voyage au droit. Les étrangers ont écrit sur tes murs, la Lorraine ne crèvera pas. Des étrangers ont écrit sur tes murs, la Lorraine ne crèvera pas. Tu tiens debout comme un voyage droit. 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 D'où je t'ai.
.10, bien sûr, la clé des ondes, et sur la clé des ondes, comme tous les premiers lundis de chaque mois, à Chaïra, l'émission du Cercle Libertaire Jean Barué.
Voilà, donc c'est maintenant le moment de la troisième partie, la troisième partie de notre partie rubrique, le 8 mars, évidemment, Journée internationale de la lutte des femmes. Un petit rappel, un peu d'histoire. Il y a 100 ans, le 8 mars 1917, les ouvrières de Saint-Pétersbourg, en Russie, se mettent en grève et manifestent pour réclamer du pain et la paix, et initient ainsi un mouvement révolutionnaire historique. Le 8 mars, jour de lutte pour les droits des femmes, était lancé. Aujourd'hui comme hier, la grève est un outil puissant. Depuis 2018, l'appel international à la grève des femmes est suivi par des millions de personnes à travers le monde. C'est devenu un symbole. Partout, le mouvement des femmes se lève, fait masse et front contre les violences sexuelles et machistes. À ce moment de la lutte contre la réforme des retraites, les femmes jouent un rôle dominant, déterminant, à la hauteur des attaques qu'elles subissent. Paupérisation, précarisation, mise sous tutelle économique ou surexploitation, au travail comme à la maison, violence. Et pourtant, sans les femmes, rien ne marche. Elles produisent un travail gratuit imposé sans lequel l'économie serait bloquée. Quelques chiffres, 750 milliards, c'est la somme que représente le travail des femmes en France, en comptant une rémunération au salaire minimum. C'est plus d'un quart de la production de richesse nationale, le produit intérieur brut. Nous voulons donc la liberté et la justice sociale. Nous avons, alors je reprends quelques slogans hein, qui seront donc développés le 8 mars, mais qui ne devraient pas se cantonner qu'au 8 mars, bien entendu. Nous voulons une société débarrassée des systèmes d'oppression et d'exploitation. La grève est notre arme. Rappelons qu'effectivement, tous les 8 mars, alors cette année évidemment c'est un dimanche, c'est pas de chance, mais des femmes travaillent aussi le dimanche. Et un mouvement de grève se fait à 15h40, je crois, j'espère ne pas me tromper, pour dire on arrête de travailler à cette heure-là, parce qu'à partir de cette heure-là, on n'est pas payé, puisque les salaires sont largement inférieurs à ceux des hommes, y compris dans les mêmes professions. D'autres slogans, organisons-nous, mobilisons-nous contre le patriarcat, le racisme, le capitalisme et ses mécanismes qui détruisent notre planète. La force des femmes change le monde. Le 8 mars, on arrête toutes. Des dates actualisées pour 2020 vont suivre dans l'agenda, parce que vous vous doutez bien que sur Bordeaux, comme ailleurs, il va se passer des tas de choses très très intéressantes le 8 mars. Nous en reparlons tout à l'heure dans l'agenda.
90.10, c'est toujours la clé des ondes. Et nous allons, pour illustrer le 8 mars, de Georges Brassens, la non-demande en mariage.
Mamie de grâce, ne mettons pas sous la gorge à Cupidon sa propre flèche. Tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Laissons le champ libre à l'oiseau, nous serons tous les deux prisonniers sur parole. Au diable les maîtresses que, qui attachent les cœurs aux queues des casseroles. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Vénus se fait vieille souvent, elle perd son latin devant la lèche frite. À aucun prix moi je ne veux effeuiller dans le pot-au-feu la Marguerite. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. On leur ôte bien des attraits en dévoilant trop les secrets de Mélusine. L'encre des billets doux pâlit, vit entre les feuillets des livres de cuisine. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Il peut sembler de tout repos de mettre à l'ombre au fond d'un pot de confiture la jolie pomme défendue, mais elle est cuite, elle a perdu son goût nature. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. De servante n'est pas besoin, et du ménage et de ses soins, je te dispense qu'un éternel fiancé à la dame de mes pensées, toujours je pense. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin.
La clé des ondes, et sur la clé des ondes, ben c'est à Chaïra, l'émission mensuelle tous les lundis du Cercle Libertaire Jean Barué. Alors une émission aujourd'hui peut-être de briques et de broc, parce que l'effectif est réduit. Voilà.
Effectivement, nous ne sommes que deux. Nous avons pensé évoquer aujourd'hui, parce que ça devient là aussi une actualité qui nous intéresse énormément et qui surtout nous interpelle, c'est de faire un point sur le Service National Universel, ou SNU pour en employer le sigle consacré. Alors, nous ne développerons pas à fond le sujet, parce que nous avons effectivement l'idée d'inviter des camarades qui s'impliquent énormément sur ce sujet pour une prochaine émission dans les quelques mois à venir. C'est en projet. Voilà, mais un petit rappel donc sur ce que c'est que ce SNU. C'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron de créer un service national universel, et cette promesse se concrétise depuis l'an dernier maintenant. Elle a pour objectif, alors je cite, attention, ouvrez les guillemets, fédérer la jeunesse autour de valeurs communes et créer un sentiment d'unité nationale, fermez les guillemets. Le SNU serait là pour faire naître en nous la culture de l'engagement ou nous bourrer le crâne? On peut effectivement se poser les questions. La première phase, d'une durée d'un mois, sera strictement obligatoire. D'ici quelques années, elle concernera toute une classe d'âge, soit 800 000 jeunes après la classe de 3e, à partir de leurs 16 ans. L'été dernier, durant la phase expérimentale, on a vu ce qui les attend. Levée du drapeau, uniforme, encadrement militaire, banalisation des rôles de la police et de l'armée. Entre 16 et 25 ans aura lieu la phase dite de l'engagement, entre guillemets. Elle est facultative mais fortement encouragée par le gouvernement, pour une durée de 3 mois à 1 an dans différents secteurs et dans les services publics. Par exemple, le gouvernement, donc, du coup, veut qu'on remplace des travailleurs et des travailleuses qui ont un salaire, une convention collective ou un statut, la possibilité de s'organiser syndicalement, des droits individuels et collectifs, par des jeunes qui vont toucher une misère comme compensation. Ça ne vous rappelle rien ? Moi, ça me rappelle quand même largement le service militaire. Parce qu'avec le SNU, pas de droit du travail, pas de droit au chômage ni à la retraite. Pour à peine, voilà, je retrouve le montant, 600 euros par mois sous la forme d'un service civique. Ce gouvernement, n'étant pas à une contradiction près, nous a dit que le SNU ne sera pas militarisé. Mais, avec en majuscule, la formation des encadrants et des jeunes sera confiée à l'armée. Et ça, ça a été confirmé par Florence Parly, qui me semble-t-il, eh bien, le ministre des Armées, le 19 janvier 2019, sur une chaîne de télé. Voilà, donc la lutte s'organise. Là, c'était vraiment un bref rappel, et je vous dis que bientôt, nous ferons une émission dédiée sur ce sujet. La lutte s'organise. Il y a effectivement pas mal de signataires. Je vais déjà en citer quelques-uns qui font partie donc de cette campagne unitaire contre le SNU. Il y a évidemment l'Union pacifiste, l'Union syndicale solidaire, la Fédération éducation de la CNT, Émancipation et tendance intersyndicale, le Mouvement national lycéen, les mouvements étudiants bien sûr. Quoi citer d'autre? Europe Écologie Les Verts, ben oui. La Fédération Anarchiste, l'Union Communiste Libertaire, l'Union des Jeunes Révolutionnaires, Radio Libertaire, voilà. Ce n'est qu'un extrait de tous les soutiens qui se sont déjà signalés pour travailler à cette campagne unitaire contre le SNU. Donc, c'est ce que je vous disais aussi. Donc, La campagne s'organise également en Gironde et nous proposons donc d'inviter dans une prochaine émission certains de ses membres actifs pour mieux développer le sujet que je ne saurais le faire car effectivement je ne l'ai pas trop creusé. Et nous allons en reparler dans l'agenda parce qu'il y a effectivement déjà quelques dates sur le sujet à Bordeaux. Et pour illustrer ce sujet SNU, une évidence. Maxime Le Forestier, parachutiste. On n'a pas la version de John Baez, donc vous aurez celle de Maxime Le Forestier.
Tu sais qu'il n'y a ici-bas que deux engeances. Les gens bien et les terroristes. Parachutistes. Puis on t'a donné des galons, héros de toutes les défaites, pour toutes les bonnes actions que tu as faites. Tu torturais en spécialiste, parachutiste. Alors sont venus les honneurs, les décorations, les médailles, pour chaque balle au fond d'un cœur, pour chaque entaille, pour chaque croix noire sur ta liste, parachutiste. Mais malheureusement pour toi, bientôt se finira ta guerre. Plus de tuerie, plus de combat, que vas-tu faire? C'est fini, le travail d'artiste, parachutiste. C'est plus qu'un travail de nana, de commander à ceux qui savent lire. Surtout que t'as appris avec moi ce que veut dire le mot antimilitariste, parachutiste. T'as rien perdu de ton talent, tu rates pas une embuscade. Mais comme on tire plus vraiment, tu trouves ça fade. C'est peut-être pour ça que t'as les yeux tristes, parachutiste. Mais si t'es vraiment trop gêné d'être payé à ne rien faire, tu peux toujours te recycler chez tes petits frères. Je crois qu'on engage dans la police, parachutiste.
Voilà. C'est le moment maintenant d'une rubrique que vous connaissez bien, hein, la chronique, l'éphéméride anarchiste. Vous connaissez désormais l'exercice, évoquer des figures anarchistes s'étant illustrées d'une manière ou d'une autre en mars et en lien avec les thèmes abordés dans l'émission. Nous avons donc choisi d'illustrer 5 militantes anarchistes ayant œuvré pour la libération des femmes. Voilà, je passe la lecture à Thierry.
Alors, le 1er mars 1877, naissance de Willie Witkop en Ukraine. Exilée à Londres, elle milite activement dans le mouvement anarchiste juif ouvrier. En 1896, elle y rencontre Rudolf Rocker. Arrêtée pour ses activités contre la guerre en 1916, elle est condamnée à 2 ans de prison. En 1918, elle repart en Allemagne avec Rudolf et fonde avec d'autres militantes le regroupement syndicaliste des femmes, qui se singularisera dans les années 20 par ses actions déclarées comme la grève des naissances et par une prise en main de la gestion de la vie quotidienne des femmes. En 1933, l'incendie du Reichstag pousse les Rockers à l'exil aux États-Unis, où ils continuent à lutter, organisant un soutien à l'Espagne libertaire, entre autres. Et en 1937, il s'installe dans la communauté anarchiste et individualiste, faut le dire, de Mohegan, dans l'État de New York. Milly mourra le 23 novembre 1955. Le 5 mars 1904, naissance de Suceso Portales Casamal, en Espagne. Elle participe activement au mouvement d'émancipation féminine Mujeres Libres, créé en avril 1936. Elle collabore à la revue culturelle et de documentation sociale du même nom, qui paraît à partir de mai 1936. Lorsqu'éclate la révolution en juillet 1936, toujours, elle s'y engage avec enthousiasme. À Guadalajara, elle se fait propagandiste et conseillère auprès des agriculteurs. le 20 août 1937 à Valence, se tient le premier congrès des groupes de femmes anarchistes fédérées au niveau national. Après la défaite, la retirada et tout, Successeau se réfugie en Angleterre, en Grande-Bretagne ou en Angleterre, je ne sais plus. En 1962, elle reprend contact avec des militants du mouvement réfugiés en France et réédite à Londres en novembre 1964 la revue Mujeres Libres, porte-parole de la Fédération des Mujeres Libres en exil. Et c'est une édition trilingue. En 1972, elle s'installe aux côtés de Sarah Berenguer à Montady, près de Béziers et Capestan, en France, où elle poursuit la publication de la revue jusqu'en 1976, date à laquelle la revue reparaît en Espagne. Toutes ces sources sont éteintes, comme on dit, à Séville, le 23 janvier 1999. Le 16 mars 1995, mort de Joséphine Quay, militante anarchiste, anarcho-syndicaliste et libre-penseuse. Employée des postes, elle participera avec son compagnon André Prévotel, dont on a déjà parlé, au groupe de Bordeaux. En 1935, elle est impliquée dans l'affaire des stérilisés. André et eux passera 12 jours en prison avant un non-lieu. Son compagnon sera, quant à lui, condamné à 6 mois de prison. Membre et militante de la CGTSR, elle est à nouveau arrêtée en 1939 pour propos défaitistes et incitation des militaires à la désobéissance. Ah, elle reste au secret 50 jours à la prison militaire de... Ah, excusez-moi, je n'ai qu'une main et... Il faut tenir le micro aussi à Tours, avant d'être libéré grâce à l'intervention de la Ligue des droits de l'homme. En 45-46, à Langon, Gironde, elle anime avec son compagnon et des réfugiés espagnols une section de la solidarité internationale antifasciste. Après la libération, ils militeront à la nouvelle fédération anarchiste au groupe local de la libre-pensée. Le 18 mars 1882, Louise Michel, désirant se dissocier des socialistes autoritaires et parlementaires, se prononce lors d'un meeting salle Favier à Paris, sans ambiguïté pour l'adoption du drapeau noir par les anarchistes. « Plus de drapeau rouge mouillé de sang de nos soldats, j'arborerai le drapeau noir portant le deuil de nos morts et de nos illusions. » Un an plus tard, le 9 mars 1883, elle brandit un vieux jupon noir fixé sur un manche à balai lors de la manifestation de sans-travail aux Invalides. Ah, je ne sais pas si c'est seulement une légende ou si c'est vrai, parce que j'en ai entendu d'autres versions. Mais qu'importe, le 20 mars 1945, mort de Maria Alcelda de Moule, éducatrice, journaliste, écrivaine, conférencière, anarchiste, individualiste, amour libriste, néo-malthusienne, pionnière du féminisme au Brésil. En 1900, elle suit les cours de l'école normale de Barbacena, où elle obtiendra en 1904 sa licence d'enseignante. Nommée en 1909 professeure de travaux manuels, dans cette même école, elle s'intéresse à la pédagogie de Francisco Ferrer et devient directrice de l'annexe de l'école. Elle participe à la fondation d'une ligue contre l'analphabétisme et s'emploie également à résoudre le problème du logement pour les plus démunis en initiant la construction d'habitations. En 1921, elle s'installe à São Paulo, et où elle commence à collaborer à la presse anarchiste brésilienne et internationale, en particulier à Plebe. Dénonçant l'oppression dont sont victimes les femmes, elle revendique ouvertement le droit au plaisir sexuel et se fait la propagandiste de l'amour libre et du contrôle des naissances. Ses articles sont également publiés dans les journaux progressistes brésiliens, ainsi que dans la presse anarchiste argentine, uruguayenne et ou espagnole. En février 1928, elle lance la revue Renascença, Renaissance, publication culturelle qu'elle consacre à la formation sociale et intellectuelle des femmes. Pionnière du féminisme au Brésil, elle crée la Ligue pour l'émancipation intellectuelle de la femme. Ligue, oui, je ne l'avais pas lu en portugais, je l'avais déjà traduit en français, excusez-moi. Elle fait également œuvre de propagandiste par la parole, donnant de nombreuses conférences à travers le pays, mais aussi en Uruguay, en Argentine, à l'invitation des groupes anarchistes ou des syndicats.
Voilà donc la mise en avant de 5 militantes anarchistes qui, à part Louise Michel, ne vous étaient peut-être pas connues. Et donc c'est toujours intéressant de découvrir que depuis des années et au siècle dernier et même avant, des femmes se battaient déjà pour la libération. Pour illustrer évidemment cette rubrique, une voix de femme, et pas n'importe laquelle, Colette Magny, deux titres à suivre, Young Woman's Blues et Mélocotone, le titre qui l'a fait connaître au grand public, comme on dit.
I kept this morning when chicken was crunch today. Get on the right side of my pillow, oh my man, it gone away. On the pillow, he left a note reading, I'm sorry, Jane, you got my guess. No time to marry, no time to settle down. I'm a young woman, and in the no running round, I'm a young woman, and in the no running round. Some people call me a hobo, some call me a bum, nobody knows my name. Nobody knows what I've done. Oh, I'm as good as any woman in your town. I ain't a high heeler, I'm a deep yellow brown. Moonshine and run these grounds down. I see that long, lonesome road. I love, you know, it's got an end. I see that long, lonesome road. Glad you know it's got an end. And I'm a good woman, and I can get plenty men. And I'm a good woman, and I can get plenty men.
Mélocotone et boule d'or, deux gosses dans un jardin. Mélocotone, où est la maman? J'en sais rien, viens donne-moi la main. Pour aller où? J'en sais rien, viens. Papa, il a une grosse voix, tu crois qu'on sera parler comme ça? J'en sais rien, viens donne-moi la main. Mélocotone, mémé, elle rit souvent, tu crois qu'elle est toujours contente? J'en sais rien. cinéma, pourquoi? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Dis-le au cotin, tu crois qu'il nous aime? Ma petite boule d'or, j'en sais rien, viens.
Sacrée voix hein, que cette Colette Magny. Moi, je ne m'en lasse pas. Bon, bah, c'est l'heure de l'agenda qui est plutôt fourni et pourtant, nous vous invitons à compléter ou préciser sur les différents sites ou par vos différents contacts les informations à suivre en mars parce que je pense que l'actualité va quand même effectivement être assez dense et tout n'est pas encore forcément annoncé ou avec suffisamment de précision. Donc l'agenda militant de Achaïra, le numéro 219 du lundi 2 mars 2020. Donc la première partie, le temps des manifestations. Alors, bah, la première, c'est pour demain, mardi 3 mars, à Bordeaux, mais partout en France. Hein. Donc l'intersyndicale appelle pour Bordeaux à un rassemblement à 12h devant la préfecture. Donc un commentaire, puisqu'on est là tous les deux, avec Thierry, quand on a reçu cette information, on était un peu déçus, on se dit un rassemblement, pas une manifestation. Bon, on verra bien, peut-être partirons-nous en manifestation sauvage, sait-on jamais.
Le jeudi 5 mars, appel national de la coordination des facs des labos en lutte. Université Bordeaux-Montaigne organise une journée sur le campus et à l'extérieur selon le programme suivant. 8h30, un petit déjeuner solidaire, puis toute la matinée, un programme de conférences, débats et autres activités alternatives qui seront proposées. 12h30, un repas solidaire avant de partir pour une action en extérieur. Ah. Dès 18h, soirée festive sur le parvis de Montaigne. C'est où ça?
Le parvis de Montaigne, mais c'est l'université Bordeaux-Montaigne, je n'ai pas l'adresse en tête.
Oui, parce que moi, comme tout le monde sait, je ne suis pas d'ici. Animé par des groupes de musique et des DJ, des disques jockeys, pour fêter la lutte et en soutien à la grève.
Vendredi 6 mars, rendez-vous pour les Leftos, place de la Victoire à 7h. Toujours organisé par l'université Bordeaux-Montaigne, mais là cette fois-ci on n'est pas sur le campus, mais place de la Victoire. Si vous voulez, lors de cette journée, tenir une table de presse, proposer une conférence, un atelier, venir chanter et ou jouer de la musique, faire des dons ou autre, n'hésitez pas à les contacter. Pour toute question ou demande de renseignement, consultez la page de Bordeaux-Montaigne contre la précarité. Dimanche 8 mars, 14h30, lieu, place de la Comédie Bordeaux, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, nous en avons évidemment parlé tout à l'heure, animation, chorégraphie, puis die-in, avec une minute de silence par féminicide depuis le début de l'année 2020, puis une minute de cri avant le départ de la manifestation jusqu'à la place Saint-Michel. Mais à noter ce jour, et ça nous a pas mal interpellé hein, de savoir que la mairie autorisait la tenue du carnaval des deux rives le 8 mars. Elle ne pouvait pas ignorer que le 8 mars, il y aurait effectivement quelque chose et qu'il y aurait une demande de manifestation. Donc, à noter ce même jour, le carnaval des deux rives, départ 13h, Bordeaux, place de Stalingrad, hein, juste de l'autre côté du pont de pierre. Et pourquoi nous en parlons? Parce que ça parle effectivement. C'est prise en compte également d'une prise de conscience, des enjeux écologiques et environnementaux avec la participation d'Extinction Rebellion et une référence à la Journée internationale pour le droit des femmes. Donc je pense que voilà, il y a eu une prise de conscience qu'il fallait peut-être faire quelque chose en commun de cet événement. Ayant pris conscience que le carnaval des deux rives se déroulait le 8 mars, Journée internationale des luttes pour les droits des femmes, un cortège de femmes sera alors mis à l'honneur et fera sens dans le scénario de notre parade. Comme quoi, Il n'est jamais trop tard. Dimanche 8 mars, et puis après je passe la parole à Thierry, 19h30, place du Parlement à Bordeaux, manifestation non mixte, comme tous les ans, le 8 mars, à Bordeaux, entre autres.
Voilà, alors j'ai entendu que aussi le 8 mars, il y allait avoir une promenade sur la trace de Flora Tristan, avec nos camarades, entre autres, de l'émission coloniale du mercredi, coloniale, anti, bien sûr, voilà.
Bon. On en reparlera juste dans la rubrique suivante, parce que là, on était sur les manifestations.
Diable. Bon, alors, le vendredi 13 mars, à 14h, toujours à la place de la Victoire à Bordeaux, les jeunes pour le climat. Ah, c'est une manifestation ? Voilà. Le samedi 14 mars, 2020, bien sûr, à 14h30, Bordeaux, place de la République, marche pour le climat. À 15h, départ de la marche, 16h, 16h30, arrivée au miroir d'eau, avec un village festif et engagé. Itinéraire, cours d'Albret, cours Aristide Briand, place de la Victoire, cours Victor Hugo, porte de Bourgogne, quai Richelieu et miroir d'eau.
Donc un constat que l'on avait déjà fait l'an dernier, mais l'an dernier une convergence, puisque c'est le mot à la mode, avait été possible, mais là, difficile de converger avec les Gilets jaunes qui, ce samedi 14 mars, comme tous les samedis, se réunissent à la même heure, mais au miroir d'eau, enfin devant à la place de la Bourse. Voilà, et alors mardi 31 mars, là pour l'instant on n'a pas de précision, retrait du projet des réformes des retraites, enfin bon, ça va être difficile maintenant, mais pression après cette affaire de 49.3, l'intersyndicale appelle à manifester, à suivre pour le lieu de rassemblement, l'heure et le parcours. Et donc pour en terminer, mais je viens de l'évoquer dans les manifestations, un rappel, place de la Bourse à Bordeaux, manifestation unitaire tous les samedis à 14h avec les Gilets jaunes. Voilà. Donc ça, c'était pour les manifestations, mais comme on le disait en préambule, soyez vigilants parce qu'il est possible qu'effectivement d'autres dates sortent, et on l'espère. Voilà, le temps des débats, des expositions, des spectacles et autres animations. Du 2 au 8 mars, de 13h à 19h, à l'espace Saint-Rémy. Alors l'espace Saint-Rémy, c'est 4 rue Jouannet à Bordeaux. Exposition « Blessures de femmes » par l'artiste photographe Catherine Cabrol, en collaboration avec le planning familial 33. Échange autour de l'expo avec l'artiste et le planning. Et le vernissage est le vendredi 6 mars à 18h. Rappel, l'expo c'est donc du 2 au 8 mars. Samedi 7 mars, veille du 8 mars, évidemment, à partir de 18h. Rendez-vous à l'Athénée Libertaire, 7 rue du Muguet à Bordeaux. Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, les femmes font la fête. Au vert et contre tout, le collectif anarcho-féministe vous invite à l'Athénée Libertaire pour une soirée féministe en non-mixité choisie. Cette soirée servira à soutenir financièrement les camarades arrêtés le 8 mars dernier à Bordeaux lors de la manifestation de lutte pour les droits des femmes et contre les violences patriarcales. Au programme, table de presse, brochure féministe, atelier banderole et slogan pour la manif nocturne du 8 mars, apéro, 7 chorales féministes, goguettes féministes, bouffe prix libre, cocktail trop bon, à voir, et boum féministe.
Le samedi 7 mars à partir de 18h au 29 rue du Maréchal Joffre, à Senon, repas partagé, musique et danse organisée par l'association CDK Bordeaux et le mouvement des femmes kurdes, TGIKF, pour permettre aux femmes de renforcer leurs liens et de passer un bon moment convivial, puis descendre dans la rue le 8 mars, c'est-à-dire le lendemain.
Voilà, et arrivons maintenant au toujours le dimanche 8 mars à 15h, ce dont Thierry était pressé de vous parler. Donc, rendez-vous Porte Caillot, place du Palais, déambulation dans Bordeaux à l'époque de Flora Tristan. Donc en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, l'asso Pourquoi Pas vous propose de mieux connaître Flora Tristan. Cette grande voyageuse franco-péruvienne est venue plusieurs fois à Bordeaux. Elle y est morte et enterrée d'ailleurs. Femme de lettres, militante féministe et socialiste, Flora Tristan participe au premier pas de l'Internationale ouvrière, dénonce l'esclavage, défend l'égalité des sexes, se bat pour faire reconnaître le divorce, défend l'éducation pour tous et toutes, s'élève contre la peine de mort et la maltraitance des animaux. Donc cette femme était déjà en plein dans l'actualité, si je puis dire. Voilà, mercredi 11 mars à 20h, Ciné Réseau, 11e édition de la séance annuelle Femme-Femme au cinéma Jean Eustache de Pessac. Projection du film Femme d'Argentine de Juan Solanas qui sort le jour même sur les écrans. C'est un documentaire tourné avec les femmes qui luttent actuellement pour le droit de l'IVG, le droit à l'IVG, pardon, en Argentine, pays où l'avortement est encore illégal, donc clandestin et conduisant à un grand nombre de décès. Avec la participation de l'équipe de la maison Simone à Pessac, un rappel, hein, c'est une maison qui accueille et oriente les femmes victimes de violences conjugales, du planning familial 33 et de Pilar Molinuevo, militante féministe argentine. En partenariat avec le festival 37e rencontre du cinéma latino-américain qui lui se déroulera du 18 au 24 mars.
Le jeudi 12 mars à 19h, à l'Athénée Libertaire de Bordeaux, 7 rue du Muguet, interrompt la destruction du monde, rencontre avec Jérôme Bachet autour de son livre Une juste colère, paru aux éditions Divergence. Le mercredi 18 mars à 19h à l'Athénée municipal de Bordeaux, contre le service national universel et réunion publique à l'appel du collectif contre le SNU 33.
Voilà, donc nous en avons parlé dans l'émission, nous allons faire une émission dédiée sur ce sujet, donc voilà pour ceux qui sont intéressés, le 18 mars à 19h et cette fois-ci à l'Athénée municipal. Je précise Athénée municipale parce que l'annonce d'avant c'était l'Athénée libertaire et vous allez voir que la suivante c'est aussi l'Athénée libertaire. Donc il faut être attentif. Mais vous le savez, de toute façon l'agenda sera en ligne. Jeudi 19 mars, donc à 19h, à l'Athénée libertaire, cette fois-ci, 7 rue du Muguet, My Buddha is Punk. Donc c'est un film de 68 minutes. Qui évoque un jeune birman de 25 ans qui rêve d'une révolution musicale punk dans son pays. La dictature militaire a effectué quelques réformes démocratiques, mais Kai Kai reste sceptique. C'est son nom, hein, excusez-moi. Enfin, je le prononce comme ça, j'espère que c'est ça. Le pays est encore loin de changer. Avec les membres de son groupe, il essaye de sensibiliser la population aux violences constantes des droits de l'homme dont elle est victime. Donc il y aura la projection du film, grignotage et discussion autour du documentaire avec une personne ayant rencontré des punks birmans. Samedi 21 mars, à la salle Mont du Laurier, donc c'est 3 avenue de la Gardette à Lormont, c'est le Nouvel An kurde. Une fête avec 4 artistes et chanteurs et chanteuses. L'invitation dit, je cite, « Votre présence à titre individuel ou une représentation de vos associations nous ferait très plaisir. Vive le courage et la lutte. » Voilà. Et puis, donc, pour conclure, alors on n'est plus en mars, mais comme notre émission, si j'ai le calendrier à peu près en tête, ne sera que le lundi 6 avril, je pense, nous annonçons pour le vendredi 3 avril à 18h30, c'est dans le cadre de les escales du livre de Bordeaux, hein, donc ça se passe comme tous les ans, place Renaudel, dans le quartier Sainte-Croix. La librairie du Muguet, qui tient un stand, comme vous le savez très certainement, invite Mathieu Rigouste donc, dans ce cadre. Mathieu Rigouste se définit comme quelqu'un qui prend part aux luttes populaires contre les systèmes de domination et d'oppression. Voilà, donc voilà pour l'agenda. Les autres temps, c'est un rappel, vous les connaissez très certainement, mais un petit rappel.
Tous les lundis, de 19h à 22h, au Samovar, 18 rue Camille Sauvageau, à Bordeaux, les permanences de soutien accueillent aux manifestants et manifestantes par le collectif contre les abus policiers, le CLAP. Le premier mardi de chaque mois, de 18h à 20h, le collectif Libérons Georges 33 tient une table de presse devant le cinéma Utopia, à place Camille Julien, Julien, pardon, à Bordeaux, pour informer sur la situation de Georges Ibrahim Abdellah, 64 ans, et militant communiste libanais, et qui entre dans sa 32e année de détention dans les prisons françaises.
Voilà pour l'agenda de ce mois-ci. On espère n'avoir rien oublié, mais on sait qu'il va sûrement se passer bien d'autres choses. Voilà. Alors, pour clore cette émission, et oui, pour une fois, nous sommes en avance. Mais nous avions prévu le coup, parce que sans invité, la gestion du temps est beaucoup plus facile, on va dire. Donc, pour clore cette émission, nous vous proposons d'entendre « Je ne hurlerai pas avec les loups » de Gilles Servat. Alors, pourquoi ? Parce que c'est une diatribe, on va dire, là aussi, sur tout ce qui choquait Gilles Servat. C'est un texte qui n'est pas récent, hein, il a dû l'écrire au début des années 80, je pense. Enfin, dans les années 80, c'est sûr. Voilà, c'est un morceau, une sorte de monologue qui dure 16 minutes. Et moi, j'ai un souvenir, c'est une émission de variété télévisée, mais qui s'appelait Vagabondage, qui était programmée en fin de soirée. Hein. Donc, c'est dire qu'on n'y entendait pas les habitués des, comment on appelait ça à l'époque, des hit-parades, hein, voilà. Et donc cette émission où justement étaient présents Colette Magny, Bernard Lubat, vous voyez, donc excusez du peu, il y avait donc Gilles Servat qui pour la première et la dernière fois de sa carrière a pu chanter sur une antenne nationale ce texte fleuve et ô combien dérangeant. Voilà. La censure a-t-elle frappé ? C'est une question que je me suis toujours posée, car ce fut la dernière diffusion de cette émission. On ne l'a jamais revue. Voilà, Gilles Servat, je ne hurlerai pas avec les loups.
Ces bijoux dérisoires, ces mots qu'on cisèle et qu'on grime au jeu de l'illusoire. À quoi bon les vers et les rimes quand la rage a rendez-vous avec le désespoir? Je ne hurlerai pas avec les loups, ne comptez pas sur moi. Je ne vomirai pas avec la droite, sèche comme un coup de trique. Pendant 20 ans, elle a joué matraque et réprime. Sur Plogoff, elle a lâché ses chiens farouches. Aux jours éclatants de 68, quand ses grenades offraient leurs fleurs de larmes aux barricades, quand noire était l'étoffe qui protégeait nos yeux, elle avait pris la fuite pour embrasser l'armée sur la bouche. Maintenant, elle pleure sur Varsovie, dans un mouchoir de soie brodé d'or, parfumé soir de Paris. C'est un crocodile, c'est un cannibale qui pleure en suçant les os de sa mère. Je ne hurlerai pas avec les loups, ne comptez pas sur moi. Je ne brandirai pas mon flingue avec Battling Sam, le shérif de l'Ouest. Regardez le nouveau monde, c'est une guêpe. Wasp, white, anglo, saxon, protestant. Au nord, la tête. Au sud, l'Amérique latine, l'abdomen des States. Au centre, la taille qui se déglingue. Le cowboy dégaine, assis sur Saint-Domingue. Les éperons griffant les flancs du Salvador. Le Chili marqué au fer qui fume encore. Battling Sam, le vengeur dégaine, yeah. Deux larmes au coin des yeux, l'une pour la Pologne, l'autre pour Somoza. C'est un crocodile, c'est un cannibale qui pleure en suçant les os de sa mère. Je ne hurlerai pas avec les loups, ne comptez pas sur moi. Je ne défilerai pas avec ce général qui sanglote lui aussi. Peut-être est-il sincère. Pourtant, à Gdansk, c'est bien un militaire général comme lui qui dicte la loi de l'artillerie. Une larmichette au bord de sa paupière lourde tremblote et puis ruisselle sur ses balafres. Instant d'émotion et de gêne, car naguère en Algérie, quand il n'était que colonel, c'était un tortionnaire. Les droits de l'homme, il leur mettait une dynamo, des pédales, un guidon, une selle, et s'asseyait dessus pour alimenter la Chégène. C'est un crocodile, c'est un cannibale qui pleure en suçant les os de sa mère. Et la France est alignée. Quoi? Comment? Quiz? Qu'entends-je? Rêve-je? Pendant le partage de la Pologne, l'Allemagne et la Russie interdisaient aux petits Polskis de parler leur langue à l'école. Quelle horreur, s'écrie l'ange au bonnet phrygien. Vilain russe, méchant prussien, honte sur vous, et pire encore. Elle verse un pleur et se déchire les seins, peut-être le remords. Il n'y a pas longtemps, elle en faisait autant, et sans vergogne, en Bretagne et ailleurs. Je ne hurle pas avec les loups, je dis tourner vers le soleil levant. Qu'avez-vous fait des espérances de 1917? Les fleurs vermeilles des soviets, écloses sous les nuées ardentes de l'aurore du siècle, se sont fanées peu à peu sous la neige pesante des années. Et les sinistres corneilles de la sclérose n'ont pas laissé germer le grain semé. À présent, leurs corps noirs couvrent votre terre et l'air vibre de leurs cris tristes et sonores. Camarades, peuple des tourbillons, peuple des vents cinglants, le Staline d'or est toujours debout. Aujourd'hui, les pays frères sont votre Amérique latine. Votre drapeau, c'est la faucille et la carabine. Et c'est l'état-major qui vous dirige. Aujourd'hui, les militaires sont le dernier rempart du parti contre la classe ouvrière. Camarades, peuple des tourbillons, peuple des vents cinglants, peuple des cyclones irrésistibles, peuple des ouragans de l'histoire, un hiver terrible étend sa banquise sur l'espace de vos vies, et sous l'emprise de ses glaces, vos pensées sont prisonnières. Aujourd'hui, l'armée rouge, pour que rien ne se passe, tire sur tout ce qui bouge. Demain, ses cibles seront les vagues, ou le feuillage sous la brise, ou le courant des fleuves, ou l'éclosion des fleurs vermeilles. Je ne hurle pas avec les loups, même si l'on m'en accuse, et ils m'en accuseront. Je dis qu'il est beau comme un songe de liberté, ce peuple, otage des partageurs de monde, bloqué dans les cachots de l'Europe, étouffé par des brontosaures et plein par des paralytiques, prisonnier des trouillards planétaires, piqué aux formoles par des croque-morts blafards, encamisolé de force par des infirmiers fous, lobotomisé par des docteurs paranoïaques. Il vit, écoutez battre son cœur. Il vit sous le couvercle kaki. Il est beau comme le rêve d'un étang qui se voudrait rivière. Et je crie merde à Pinuchevski. Mais c'est facile à crier ici, loin, dans l'incroyable confusion. Ici, où les cadres critiquent l'autogestion avec solidarité au revers de la veste. Même le gouvernement turc ose soutenir solidarité. Marécage des idées, sable mouvant, brouillard, feu follet, apparence, fantasmagorie, attrape nigo, vessie, lanterne. Solitaire noche, on se sert de toi. Tes mains adverses te manipulent, te triturent, te transforment. Tu n'es plus qu'un ballon qu'on se dispute pour se marquer des buts. Je ne hurle pas avec les loups. Je dis à vous qui m'écoutez, Méfiez-vous, les gentils, les méchants, c'est pour les enfants. Le bien dans le mal, comme la chaleur est dans la flamme. Les héros vieillissent, les martyrs enfantent des bourreaux. Rien n'est simple, même solidarité. Rappelez-vous, Israël, le Liban, Phnom Penh libéré, le départ du tyran de Perse. Vers l'ayatollah, vers le vieil homme à la barbe lumineuse, coulait la sympathie comme un fleuve invincible. Le flot de ferveur est devenu fanatisme. La dictature des croyants a éteint la lumière. Le vieillard noir, assis sur les cadavres, nous l'avons chassé de nos cœurs. Dans nos poitrines, la place était vacante pour accueillir les résistants des vallées afghanes. L'imam, démon obscur, les Afghans, héros clairs et purs, voilà l'image qu'on nous présente. La même religion les guide et les armes. Quand les résistants gagneront, quel voile viendra cacher la face de l'Afghanistan? Non, je ne soutiens pas l'envahisseur. Il est exécrable, indigne, brutal, odieux, méprisable, inhumain, dégueulasse. Il doit quitter le territoire afghan tout de suite, aujourd'hui, ce soir, et cesser sa sale guerre inutile et honteuse. Je crie, foutez le camp, mais ne m'en demandez pas plus. L'agression ne change pas l'agressé en héros clair et pur. Ne me demandez pas d'entrer dans le jeu truqué du choix simpliste. Le Coran ou le Capital, le Tchador ou l'American Way of Life, le pape ou le poupe, les catholiques ou les protestants, l'infarctus ou le cancer, le gaz russe ou l'atome, le coup de poing dans la gueule ou le coup de pied au cul, les SS-20 ou les Pershing. Choisis, dans les airs se joue un opéra titanesque. À l'ouest, les condors, à l'est, les cons d'acier, au milieu, les pauvres cons. Choisis ton con, camarade. Je choisis le doute, fini les mains jointes, les yeux fermés, la bouche ouverte. Je ne veux plus croire, je veux savoir, connaître, comprendre, pénétrer, saisir, appréhender, juger en connaissance de cause, poser le doute comme principe. Je veux laisser les certitudes au bulldozer. Je choisis le doute et la non-violence. Il y a deux violences. La première, celle qu'on impose, l'ordinaire, avec sa gueule d'homme ordinaire. La seconde, celle qui répond au silence, celle-là je la comprends. C'est un cri, se taire sur l'injustice précipite la violence. Le silence, notre silence, est lui-même une violence. Censeur, tripatouilleur d'informations, trieur de nouvelles, menteur, étouffeur de vagues, tout va bieniste, jeteur de voiles publiques, autocenseur peureux, complice par omission, vous êtes tous des allumeurs de violence. Combien faut-il de morts pour desserrer vos dents? Envoyez vos barèmes! La seconde violence, je la comprends. Mais une fois brisé le silence, quand elle continue, elle devient ordinaire. Elle ne règle rien. Elle est injuste. Elle affaiblit les causes justes. Quelque part en Angleterre, une bombe. Sur le trottoir, un enfant tombe le visage arraché. Le sacrifice de Bobby Sands et de ses amis s'estompe. Les index braqués sur l'ombre s'abaissent. Et l'Irlande seule pleure ses fils et leur message anéanti. Je choisis le doute, la non-violence et la dignité. Je défendrai la dignité des êtres et même des choses. La dignité des hommes, des animaux, des plantes, des pierres, des pays, des langues, du travail, des peuples, des mers, des paysages, des sols, des algues, des tribus, des pensées, des enfants, des poissons, des insectes, des races, des continents, des céréales, des femmes, des labours, des maisons, de la paix, des étoiles, des planètes. Qu'elle est belle dans l'espace, la terre d'azur spiralée de lait. Sa dignité est entre nos mains. L'homme seul peut la dégrader, car l'homme seul est conscient. La dignité de la terre est entre nos mains. Partout s'assemblent et s'organisent des hommes et des femmes,
qui refuse la rigidité d'un monde cadavérique. Partout de nouvelles formes d'action paraissent pour en finir avec l'économie coloniale, brûler les racines de la misère, court-circuiter les multinationales cachées derrière les dictatures, abattre les murailles entre les races, pulvériser les temples du profit, déchausser la médecine, reprendre les terres, diversifier les cultures, produire sur place des médicaments simples, abolir les tortures, apprendre à lire, ouvrir les prisons, donner la parole aux pauvres, écouter ce qu'ils ont à dire, partager, partager la terre entière, chaleureusement. Enfin, arrive le temps du concret. Enfin, on cesse de faire entrer de force la réalité dans le moule des idées. Enfin, arrive le temps du respect. Difficulté suprême, laisser libre les pensées différentes. Que chacun regarde en soi, la bête est là, la vie sournoise, prête à tout dévorer. L'hydre du fascisme est en chacun de nous. Chaque soir, je la décapite. Chaque nuit, ses têtes repoussent dans ma tête. Parfois, elle me soumet. Parfois, je suis vainqueur. En moi, l'intolérance, moisissure fallace. Je ne vaincrai jamais définitivement. Mais sans relâche, je décapiterai le monstre. Jamais je ne prendrai la Kalachnikov pour imposer mes idées, ma loi ou ma croyance. J'ai trop peur d'avoir tort.
Voilà, donc ce long monologue de Gilles Servat, donc je viens de vérifier, a été écrit et paru sur un 33 tours, peut-être en CD, mais ça je ne sais pas, nous avons le 33 tours, en 1983. C'est le moment de la fin pour ce 219e numéro d'Achaïra. Nous sommes effectivement, comme on l'a annoncé tout à l'heure, un petit peu en avance, mais à deux, on a eu un peu de mal quand même. Nos amis nous manquent. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois, le lundi 6 avril. À bientôt, donc, dans les mobilisations et les luttes.
Eh bien, comme disait Fabienne, à dans un mois. Et on est toujours là, bien sûr.
Et oui, on est là, mais je ne le chanterai pas, je chante faux. Je pense que ça fait écho à une chanson que vous connaissez tous maintenant. Vous pouvez retrouver l'émission, soit en rediffusion le vendredi qui succède le direct, et cela à midi, ou en podcast sur le nouveau site de la radio www.laclédesondes.fr dans la rubrique programme, puis cliquez sur Achaïra. Et aussi sur le site du Cercle, Cercle Libertaire, jb33.wordpress.com. Et en plus, le programme sera détaillé et vous aurez les liens sur les chroniques écrites. Voilà, les émissions reprendront sur la Clé des Ondes demain à 6h pour la tranche matinale d'information. En attendant, nous vous laissons avec la bande musicale enregistrée de la radio. Bonsoir.